BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et il est midi sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais d'abord, un rappel de l'actualité du jour et la tension qui remonte d'un cran au Moyen-Orient. L'Iran dénonce aujourd'hui la mise à mal du processus diplomatique par les États-Unis. Le porte-parole des affaires étrangères iranien parle de messages contradictoires envoyés par les Américains, de changement de leur position et de leurs exigences, mais surtout de violations répétées du cessez-le-feu. Pour autant, les marchés financiers semblent toujours croire à une issue favorable au conflit, en tout cas côté pétrole. Les prix sont toujours orientés à la hausse ce midi avec un baril de Brent autour des $92. Le marché obligataire reste en revanche particulièrement tendu à l'aube de la probable hausse des taux de la Banque Centrale Européenne. Le 10 ans français aussi toujours autour des 3,7% et le 10 ans allemand toujours au-delà des 3%. Et puis dans le reste de l'actualité, notez la grève aujourd'hui à la SNCF. Le trafic régional est fortement perturbé, confirme la direction, avec un TGV sur 3 côté grande ligne et un intercité sur 2 annulé. Les syndicats réclame des augmentations de salaire et dénonce les conditions d'ouverture des lignes à la concurrence. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com. BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence qui vous concerne, amis professionnels de ce secteur de l'immobilier au sens large et qui nous concerne, nous les usagers de cet immobilier, le pro de l'IMO, des témoignages terrain de vos métiers et des bons conseils. Aujourd'hui particulièrement, on va s'intéresser à l'acquisition d'une résidence secondaire. Quand on croit parfois ne pas avoir les moyens, bah finalement, on a peut-être déjà sa résidence principale et ça peut aider, vous verrez ça dans quelques instants. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour et aujourd'hui, on va parler des défis immenses qu'attend la promotion immobilière. Ben oui, il y en a des défis. Il faut relancer la construction de logements en France. Le moment n'est pas particulièrement favorable, mais on va voir comment on peut leur trouver des solutions à ces promoteurs et comment ils vont en ce moment. On va leur poser la question, mais d'abord, c'est l'heure du Pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le Pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Véronique Bougardier, la dirigeante du cabinet Bougardier. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Alors je le disais en préambule, l'achat d'une résidence secondaire, c'est le rêve des Français, j'ai envie de dire. Hein. Alors souvent, c'est la deuxième étape. La première, c'est d'acheter sa résidence principale. Et souvent, on se dit, bah maintenant que j'ai ma résidence principale, il me reste plus beaucoup d'argent et je suis pas sûre de pouvoir séduire la banque avec mon profil. Et vous me dites qu'en fait, si je peux séduire la banque, c'est à peu près ça votre discours.
Tout à fait. C'est vrai que beaucoup de personnes sont déjà propriétaires de leur patrimoine principal, de leur immobilier principal, leur résidence, et ils rêvent d'acquérir une résidence secondaire, mais ils n'ont pas toujours l'épargne nécessaire. Et lorsqu'ils vont voir leur banque, on va leur demander un apport. C'est évident qu'on ne va pas leur financer 100% de la future acquisition. Et là, ils ne pensent pas toujours. C'est vrai que le prêt hypothécaire est un peu méconnu. Dans le prêt hypothécaire, plus on apporte de biens en garantie, plus on peut vous prêter. Donc, je vais vous donner un exemple très simple. Une personne qui veut acheter une résidence secondaire à 500 000 euros, il a déjà un bien à 500 000 euros. Si ce bien est entièrement payé, on prendra en garantie d'une part le bien principal et le bien futur, le bien qu'il veut acheter. Et on pourra lui faire un prêt de la totalité du montant qu'il va acquérir cette résidence secondaire. Bien souvent, les personnes qui ont cette démarche pensent déjà à leur retraite et se disent on va acheter un bien immobilier pour la retraite puis on le paiera quand on aura vendu la raison. On l'achètera quand on aura vendu la résidence principale. Et ben avec le prêt hypothécaire, ils peuvent vraiment anticiper ce rêve parce qu'ils peuvent aux alentours de 50 ans par exemple, ils peuvent acheter une résidence secondaire. Donner en garantie la résidence principale et la résidence et le futur bien et payer sur du long terme parce que avec les prêts, le prêt hypothécaire, on peut emprunter même jusqu'à la dernière échéance jusqu'à 90 voire 95 ans. Donc, ils peuvent avoir un prêt très long terme ou encore mieux avoir un prêt in fine sur une durée de 15 ans. C'est-à-dire que ça va pas impacter, ça va être très lourd sur leur revenu courant parce qu'ils ne paieront que des intérêts. et le capital, ils le paieront quand ils vendront la résidence principale. Alors, c'est tout des aides qui permettent effectivement de réaliser ses rêves. Et ça, les gens ne savent pas toujours qu'ils peuvent hypothéquer leurs biens immobiliers.
Mais c'est hyper intéressant, Véronique. Mais ma question derrière, c'est justement quel est à peu près le profil de ces acheteurs de résidences secondaires que vous voyez. Vous disiez, c'est des gens qui finalement se disaient qu'il fallait qu'ils attendent de revendre et d'être véritablement à la retraite. Mais en réalité, aujourd'hui, vous avez des cinquantenaires qui arrivent en se disant, moi, j'aimerais bien passer à l'acte dès maintenant. C'est possible de le faire via ces mécanismes-là? Vous en voyez beaucoup de ces profils-là aujourd'hui?
On voit beaucoup de ces profils parce que c'est des personnes qui vont en vacances toujours au même endroit. Ils ont leurs habitudes sur la côte atlantique ou la côte méditerranéenne et ils rêvent de plutôt que de louer tous les ans, de s'acheter une maison. Ils sont tous les ans, ils regardent des agences immobilières quand ils sont en vacances. Et à 50 ans, même s'ils n'ont pas totalement fini de payer leur prêt immobilier, bon, il reste pas grand-chose en général. On peut effectivement, c'est un très bon profil et ils peuvent arriver en douceur à la retraite. Ils auront profité pendant au moins 15 ans de leur résidence secondaire qui deviendra leur résidence principale au bout.
Juste une dernière question, Véronique. Là, on parle des cinquantenaires, effectivement, qui sont déjà pas très loin aussi de terminer leur crédit. Pour les gens qui seront pas sur la fin du crédit, c'est possible aussi de faire ce type d'opération? Je veux dire, si je suis encore en train de rembourser le crédit pour ma résidence principale?
Oui, il y aura deux solutions. Soit on pourra reprendre le prêt en cours sur la résidence principale et l'additionner au financement pour l'acquisition future. Ça, c'est pour si la banque souhaite un premier rang. Mais on a également des banques qui peuvent vous allouer une trésorerie de second rang et avoir la disponibilité pour acheter un bien. Par exemple, vous avez un bien qui vaut, je dis toujours la même chose, bon, 500 000 euros. 70% de 70 000 euros, c'est 350 000. S'il vous reste 100 000 euros de capital restendu, vous aurez la capacité d'avoir un prêt de 250 000.
Bah écoutez, c'est très intéressant et je garde vos coordonnées pour dès que je suis propriétaire de ma résidence principale, voilà, je passerai à l'acquisition de ma résidence secondaire. Merci pour votre témoignage, Véronique Bougardier, la dirigeante du cabinet Bougardier avec nous dans le Pro de l'Immo sur BFM Business. Si comme Véronique, vous avez des témoignages, des conseils à nous apporter, n'hésitez pas à nous écrire, on a une adresse mail, lesexpertsdelimmo@bfmbusiness.fr. Allez, on passe au débat.
Les experts de l'Immo, le débat.
Je vous avais jamais eu sur le plateau. François Payel, directeur général délégué de Promogy, mais ancien patron de la Fédé des promoteurs immobiliers. On embrasse Pascal Boulanger, actuellement à la tête Totalement. De la fédération. Bonjour François.
Bonjour Marie.
Et à mes côtés également, Mathias Navarro, le CEO de Redman. Bonjour Mathias.
Bonjour Marie.
Bon, je vous ai fait venir sur le plateau parce que quand même, il y a un vrai sujet. Et du coup, Pascal Boulanger pense à nous forcément à ce moment-là autour de la promotion immobilière. Et de ce momentum en ce moment, parce qu'on va pas se mentir, c'est-à-dire qu'on a eu des années compliquées parce qu'il y avait pas de prise de conscience politique. On se disait que ça allait aller mieux, et puis patatras, guerre au Moyen-Orient. Et là, ce climat... On a une mouche sur le plateau, donc m'en voulez pas si vous me voyez régulièrement à l'antenne en train de faire ça, mais bon. Messieurs, aujourd'hui, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment ça va? Est-ce que votre activité se tient? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Et quel type de difficultés vous rencontrez? Je ne sais pas lequel de vous deux souhaite commencer.
Bah, écoutez, effectivement, on a eu 2025 qui était une vraie mauvaise année. Mauvaise année sur les ventes, mauvaise année sur les mises en vente, mauvaise année sur les délivrances et l'obtention de permis de construire. Donc, ouais. C'était vraiment une année difficile. On avait l'esquisse du début d'un frémissement, des choses un peu plus favorables, toute fin 2025, début 2026, avec des taux d'intérêt qui finalement restaient assez stables à ce moment-là, avec un début de baisse des coûts de construction qui avait explosé après le lancement de la guerre en Ukraine, qui avait mis en gros 2 ans à se calmer, et là on retrouvait donc un peu de souplesse dans nos prix de revient.
On y croyait quoi?
On y croyait, et puis l'annonce du statut du bailleur privé porté par Vincent Jeanbrun, qui était objectivement une bonne nouvelle, et donc voilà, on se disait peut-être que 2026 va aller un peu mieux, et puis là, patatras, effectivement, la guerre au Proche-Orient démarre, avec derrière les tensions qu'on sait sur les taux d'intérêt, les tensions sur les matières premières, donc mécaniquement sur les coûts de construction. Et donc voilà, on se dit que ce petit début plein d'espoir pour l'instant est réduit à néant. Alors pour répondre à votre question, comment est-ce qu'on va? Vous savez, on est comme des marins dans la tempête. On a fait ce qu'il fallait sur le bateau. On a mis des ris dans la grand voile. On a mis une toute petite voile devant. On a mis nos brassières. On a mis nos harnais de sécurité et on trace la route.
Mathias ?
Bah, je ne vais pas pouvoir dire grand-chose que je vis dans le même monde économique que Promogy, mais on a effectivement vécu une année 2025 extrêmement, extrêmement compliquée. On est dans la tempête, on essaie de trouver des solutions pour essayer de s'en sortir. On a vu effectivement ce frémissement politique parce que le sujet du logement était très 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 en dessous des radars pendant très longtemps parce que c'est aussi
un
euphémisme, sujet
le en dessous des radars.
Hein. C'est surtout c'est un sujet très technique en fait et on le sait tous, il n'y a aucune solution.
Il n'y a pas de baguette magique. Voilà, ouais, c'est ça.
Et voilà. Et donc pour faire émerger ce sujet au niveau, je veux dire, de la presse générale, de la télévision générale, etc. C'est très compliqué. C'est enfin arrivé parce que vraiment tout le monde le ressent au quotidien, ce sujet de crise du logement.
Et il était temps, j'ai envie de dire.
Il était temps, effectivement. Mais effectivement, les emmerdes volants en escadrille,
on embrasse Jacques Chirac.
On a une accumulation de ces problématiques qui fait que c'est très, très compliqué de sortir la tête de l'eau.
Mais j'ai une question toute simple. Votre téléphone, il sonne. Parce que je me souviens, encore une fois, on a beaucoup parlé de Pascal Boulanger, mais qui me disait au démarrage, au moment du déclenchement de la guerre entre les Américains et les Iraniens, il me dit, c'est pas compliqué, le téléphone sonne plus, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'on y croyait, on a eu ce dispositif Jean Brun, du nom du ministre du Logement. On y croyait, et puis là, patatras, il y a quelque chose de psychologique aussi qui s'est passé, parce que, on va pas se mentir quand même, les fondamentaux, ils sont là. C'est-à-dire, oui, on a une légère hausse de nos taux de crédit immobilier, mais enfin, pas de nature à gripper le marché. C'est pas la hausse qu'on a connue à une vitesse incroyable au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Elle est quand même plutôt mesurée. On a plein de petites lignes de prêts à taux bonifiés. Globalement, on n'est pas passé du jour au lendemain à des conditions extrêmement favorables, à des conditions extrêmement défavorables. Est-ce qu'il y a cet impact psychologique qui joue essentiellement pour vous, acteurs de la promotion immobilière ?
Alors, je crois que, comme je suis le moins jeune du plateau, j'ai vécu la crise des années 90 et on était à peu près dans la même situation et on se demandait un jour si un coin de ciel redeviendrait bleu.
Ouais.
Et effectivement, un coin de ciel finit par redevenir bleu. Et il faut y aller avec un peu de méthode. Si on regarde les chiffres en segmentant, on s'aperçoit qu'entre les bonnes années, on vend à peu près 120 000 logements au détail, une bonne moitié en accession, une petite moitié aux investisseurs. 60 000 accessions, ça donne 5 ans plus tard, en 2025, 40 000. Donc c'est une forte baisse,
ouais. Mais
c'est pas non plus un effondrement total. Les investisseurs, 60 000, on est passé à moins de 10 000 l'année dernière. Donc je pense que le premier sujet qui est fondamental...
C'est l'investisseur.
Pour ça, tout le projet du statut du bailleur privé que porte Vincent Jeanbrun est bon. Il faut sans doute le corriger un petit peu sur 2-3 curseurs. Hein. On se souvient à l'époque qu'entre le Duflo et le Pinel, finalement, il n'y avait pas beaucoup de différence.
Ouais, et pour autant,
ces quelques curseurs ont changé la donne. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en général, les investisseurs sur les produits avec amortissement comme celui-là se positionnent vraiment au deuxième semestre. Donc, en gros, il faut qu'on se prépare.
Il faut laisser du temps au temps aussi. Hein,
pas trop que... quand même, parce que...
non, mais par rapport aux chiffres qu'on a de Jean Brun, typiquement,
voilà.
Vous voyez les chiffres de la FED,
voilà,
c'était pas terrible, mais en même temps, il faut laisser le temps au
dispositif. Il faut qu'on se dise qu'à partir de juin-juillet, à partir de l'été, il faut que le dispositif soit opérationnel. C'est pour ça qu'on plaide tous collectivement, et nous évidemment dans le groupe Promogym aussi, pour faire ces 2-3 ajustements qui devraient donner plus d'efficacité. Après, il y aura toute la chaîne derrière, mais
Mais vous en vendez là tous les deux du Jean Brun là, ça y est, ça commence.
Non, absolument non. Moi, le dispositif Jean Brun, il est bien meilleur que le Pinel.
Que rien,
surtout, mais même que son prédécesseur. Et de ce point de vue-là, notamment sur l'amortissement, c'est un sujet sur le fait qu'il s'ouvre aussi à la rénovation de manière beaucoup plus massive.
Ouais.
Et nous, c'est aussi ce qu'on porte chez Redman, c'est aussi pas que la construction de logements, mais la production de manière générale, c'est-à-dire aussi au travers de la rénovation. Mais ce n'est que, entre guillemets, un signal prix. Ça reste un signal prix adressé aux investisseurs pour essayer de faire repartir cette machine-là. Mais ce n'est pas la seule machine pour produire du logement, loin de là. Et du coup, ce n'est pas un dispositif qui va régler la crise du logement. On est quand même très, très,
ouais,
très loin. Ce n'est pas une politique du logement, c'est
ce que
je veux
dire. Non, bien sûr.
Notamment, un de ces sujets, moi, qui m'inquiète le plus, c'est l'absence de zonage. Parce que des logements, il y en a quand même encore beaucoup à vendre. Et nous,
donc pour l'instant,
on en a beaucoup à vendre, mais il y a un moment, les logements aussi ne se vendent pas pour d'autres raisons. Il y a le sujet du prix, il y a le sujet de la localisation, il y a plein de sujets qui s'accumulent qui font que le dispositif Jeanbrun va régler un certain nombre de sujets, mais il ne faut pas s'attendre à ce que d'un seul coup la crise du logement soit résolue grâce à ce système.
On en avait déjà parlé de ce système de jaunage et des fameux Robins de la colère, parce qu'à une époque on avait certains promoteurs qui s'étaient laissés tenter en se disant « Oh, je vais aller construire n'importe où, puis je le vendrai à monsieur et madame Michu qui n'ont pas compris le système » et qui se sont retrouvés à acheter des biens immobiliers neufs sans locataire dedans et donc sans avantage fiscal à la fin. Est-ce que vous craignez une dérive pour certains promoteurs qui pourraient être tentés, une fois les stocks vendus, d'aller construire là où il ne faut pas ?
Alors je crois que depuis depuis cette époque-là, on a quand même tous beaucoup progressé. Et il faut dire que le système du flow, puis le système Pinel avec des zonages qui étaient pertinents, ouais, qui étaient centrés sur les grandes agglomérations, qui permettaient d'avoir des loyers, ce qui est le cas du mécanisme porté par Vincent Jeanbrun, hein, avec des loyers intermédiaires qui sont quand même bien adaptés à une clientèle moyenne, moyenne supérieure, qui est celle aussi des grandes villes. Je pense que on est vraiment loin derrière cette période-là. Les promoteurs aujourd'hui sont quand même très attentifs au bon écoulement de leur stock. Je vous rappelle que pour pouvoir financer une opération, il faut déjà avoir pré-commercialisé près de 50% du programme.
Petit clin d'œil.
Voilà. Et donc, je pense qu'aujourd'hui tout le système est très vigilant là-dessus.
Ouais.
Et il y a eu des excès peut-être à une époque, en tout cas chez nous c'était pas le cas, mais je pense que maintenant on a collectivement pris conscience de la rigueur qu'on devait avoir sur ces montages-là, et de toute façon pouvoir proposer des opérations à des gens qui vont se louer.
Mais on rappelle les trois règles en immobilier, messieurs, hein, l'emplacement, hein, mais et puis je pense qu'aujourd'hui peut-être les gens sont peut-être mieux informés, à condition qu'ils écoutent BFM Business et les experts de l'IMO, évidemment, mais voilà, mieux informés pour savoir ce qu'ils achètent, où ils achètent, quel loyer vont pratiquer.
Il y a une autre chose qui est préoccupante, qui est que les mises en vente ont beaucoup chuté aussi.
Ouais.
On finit par avoir une offre qui est insuffisamment diversifiée en localisation, en typologie, en prix. Donc si l'offre continue à se restreindre, c'est aussi un des éléments qui explique la difficulté de commercialiser, c'est qu'on offre, on a des palettes et des gammes plus suffisamment importantes. Et c'est pour ça aussi que j'espère que derrière le discours nettement plus positif, hein, on l'évoquait il y a un instant, du Premier ministre et du ministre du Logement, un certain nombre d'élus locaux prendront aussi conscience qu'avoir du logement neuf, dernière génération, on l'utilise pas beaucoup ce mot pour le logement, mais au top de la technologie, c'est aussi un facteur d'attractivité pour leur commune, pour leur agglomération, et c'est essentiel pour l'emploi. Hein. Depuis 2 ou 3 ans, on commence à se rendre compte que soit des étudiants peuvent pas bouger parce qu'ils trouvent pas à se loger, soit des gens vont pas changer de job, ou vont pas aller vers un nouveau job, parce qu'ils ont une vraie inquiétude sur le logement. Donc tu disais à juste titre qu'il n'y a pas que le dispositif Jeanbrun, c'est une pierre importante du dispositif.
Oui, bien sûr.
Mais il faut que tous ces maillons se remettent en place, qu'on puisse lâcher un riz dans la grand voile progressivement, remettre peut-être un foc un peu plus portant devant, et tout doucement remettre la machine
en marche. Il aime la voile, hein,
François. J'aime la voile.
Mais juste avant de prendre la mer, quand même, vous parlez de manque d'offres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les collectivités locales, nos maires, ne signent pas assez de permis de construire ? C'est quoi le sujet ? Pourquoi on n'a pas assez d'offres aujourd'hui ?
Oui, très clairement. Enfin, là, on sort d'une période
électorale
qui a clôturé un attentisme bienveillant, mais tout à fait naturel tous les 6 ans du maire qui ne regarde plus de projet 12 à voire 18 mois avant cette échéance, et qui est, comme on le disait un peu tout à l'heure, un frein qui s'additionnait à tous ceux qu'on a déjà cités depuis le début de l'émission. Donc, c'était quelque chose en plus. Il faut espérer, on le voit donc quand même au quotidien maintenant, que les maires, voilà, ont rouvert les discussions, les projets, les remettre sur la table. On a eu un certain nombre de projets qui n'ont pas été remis en cause par des maires qui ont pu changer.
Ah oui, parce qu'après, en plus, quand on change de ministère, ils peuvent revoir le plan local d'urbanisme, c'est ça ? Ou alors c'est juste qu'ils disent non ?
Ils peuvent revoir le PLU, ils peuvent revoir des projets, il y a des permis qui sont en cours qui peuvent être instruits différemment, etc. D'accord. Donc toutes les options sont possibles. Donc voilà, c'est une difficulté supplémentaire qui s'additionne avec celle dont on a déjà parlé.
Donc on parle il y a les maires dans le maillon, mais il y a aussi tous les projets qui pouvaient voir le jour, mais qui finalement sont annulés. Je crois qu'on a maintenant un quart, c'est ça ?
Même un peu plus, on a frôlé les 30%.
Oh là là, et pourquoi ? C'est quoi ?
Parce
c'est la
qu'à partir du moment où vous n'atteignez pas la pré-commercialisation de 50% du programme, au bout d'un moment, les financements ne sont pas là et on est obligé d'abandonner le programme. On disait il y a un instant, 50% investisseurs, 50% accédant à la propriété. C'est pas tout à fait ça, mais on est très proche. À partir du moment où le taux des investisseurs passe de 60 000 à 10 000, comme si on essayait de décoller avec un seul moteur avec un seul réacteur dans l'avion, ça devient compliqué, quoi.
La mer, l'avion, mais combien de cordes à votre arc, François ? Non, mais Pour le coup, moi, ma question, elle est-ce que du coup, c'est pas inquiétant aussi? Enfin, c'est presque un cercle vicieux. C'est-à-dire que je me mets dans la position d'un acheteur aujourd'hui et je me dis, si là, en plus, vous me dites qu'il y a une chance sur cinq que le projet pour lequel je m'engage ne voit pas le jour, est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager? Comment vous pouvez rassurer celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qu'ils soient accédants ou investisseurs, de se dire, bah, c'est le moment d'acheter du neuf et c'est pas si inquiétant que ça, en fait? Comment on rassure les gens?
Ben, moi, je pense qu'il y a un sujet qu'en fait, le logement, il peut avoir plusieurs formes. En fait, le logement, il va servir, c'est un peu une banalité, mais à loger des gens. C'est le premier sujet. Il peut aussi servir, le logement, il peut aussi servir à investir et il peut servir à défiscaliser. Et c'est pas les mêmes produits, c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes lois d'ailleurs. Et en parlant du Jeanbrun, le Jeanbrun s'adresse à ceux qui cherchent de la défiscalisation et de l'investissement en priorité. Et du coup, on a une difficulté, je pense, à faire complètement matcher les besoins. Les besoins sont réels, les besoins sont immenses. On connaît tous les chiffres, les demandeurs de logement, les primo-accédants, etc. Et l'outil de production. Et ça marche quand c'est parfaitement couplé et que l'outil de production répond à cette demande. Mais c'est très compliqué, c'est vraiment un équilibre très très difficile à faire tenir, ce couplage, et ça fait des mois, des années maintenant que c'est largement découplé, et c'est aussi pour ça que finalement de la production, soit qui est lancée en production, soit qui est proposée, trouve pas forcément son
public. Ouais, ouais.
Parce que c'est
le programme au démarrage qui est mal fagoté.
La bonne programmation. Nous, on a beaucoup de maires, on va voir avec les nouveaux maires, beaucoup de maires qui demandaient beaucoup de logements familiaux, mais je veux dire, on regarde la démographie en France, le noyau familial a fondu comme neige au soleil, et donc les logements familiaux ne répondent plus à une demande aujourd'hui réelle.
Et parfois c'est l'inverse aussi, parfois il y a des programmes qui se basent sur des petits logements et on demande à ce qu'ils soient
plus de place. Et il y a aussi, bien évidemment, le sujet prix. Le sujet prix, c'est bien évidemment aussi un des premiers, une première cause de réflexion par rapport à ça. Et on voit bien qu'on essaie tous de travailler, et j'imagine que Promogym aussi, sur le fait d'essayer de produire des logements plus abordables. Parce que on se dit, mais on va acheter des produits chers, l'immobilier reste cher, quelle va être la valeur de ces actifs dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans qu'on aura terminé de rembourser. Et à cela s'ajoutent quand même des sujets de démographie. Hein. On a les chiffres de l'INSEE, ils sont tombés hier ou avant-hier.
Ouais, ouais.
On parle de plus de 3 millions de personnes en moins en France. Qu'est-ce que ça va être sur les tensions sur le marché immobilier? On sait que la tension porte aussi les prix. Mais donc ça, tout ça, c'est des paris. Et les paris, les gens, quand ils vont commencer à voir les banquiers et à s'embarquer dans une acquisition, ils se posent beaucoup de questions par rapport à ça.
François ?
Le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut se dire qu'à partir de maintenant, il y a des facteurs qui nous permettent d'espérer qu'un bout de ciel bleu va commencer à réapparaître. Les élections municipales sont passées, tu l'as dit, ça c'est une bonne chose, donc ça nous rend assez optimistes. Ou alors, on ne maîtrise plus rien, mais l'histoire montre que les tensions géopolitiques finissent toujours par s'apaiser. Donc, à un moment donné, les choses vont se calmer. Et on a en main des outils qui vont permettre de peser sur plusieurs paramètres. Il y a le dispositif fiscal. Il y a une étude de Sologer qui est sortie au mois d'avril, extrêmement intéressante, qui montre qu'après une période de stabilisation, de l'offre locative suffisante, de prix à la location qui s'est stabilisé, comme depuis un an et demi ou deux, les investisseurs ne sont plus là, les institutionnels ont plus de mal parce qu'ils ont besoin de beaucoup de fonds propres pour investir, eh bien, la tension sur les prix de location est repartie à la hausse et le marché locatif est à nouveau sous tension. Donc, on voit bien que tout ça milite pour que progressivement, la machine se remette en place. Les taux d'intérêt, vous le disiez un instant, en 90, on avait des taux d'intérêt à 12 ou 13%.
Ouais,
on a fini par trouver les moyens de s'ajuster, donc on s'ajustera. Mais ça va être un peu long mais il faut rester optimiste.
Alors pour finir sur de l'optimisme, parce qu'il nous reste que 3 minutes et oui, le temps passe vite, je voulais quand même parler d'un autre sujet qui est particulièrement dans l'air du temps. Vous le disiez tout à l'heure, François, c'est-à-dire qu'on est sur des logements qui sont ultra performants et particulièrement adaptés aujourd'hui par rapport au discours politique général. Typiquement sur l'électrification, il y a quand même un vrai sujet. Aujourd'hui, on demande même à vous, promoteurs, aujourd'hui, d'ici l'année prochaine, je crois, de faire du 100% électrique dans vos constructions. C'est possible? Est-ce que ça va induire des surcoûts pour l'acheteur final? Comment on s'organise face à ça? Est-ce que pour vous, c'est simple?
Moi, je pense que l'électrification, elle est inévitable. On voit par rapport au prix d'énergie qui s'annonce, etc. C'est forcément la bonne voie. Je pense que là, plus grand monde ne se pose la question. Je pense qu'elle est désirable aussi, parce que ceux qui vivent actuellement dans des logements qui ne sont pas électrifiés le ressentent et vont le ressentir de plus en plus. En revanche, je trouve qu'elle est mal engagée, en version globale. Sur le neuf, on part sur le 100%. Moi, je pense que c'est possible. En fait, on s'en rend compte aujourd'hui, dans toute la production, il est possible de mettre de l'électrification quasiment à 100%. Donc, je pense que petit à petit, oui, il y a des surcoûts, mais c'est toujours la même chose. Quand on arrive à imposer une réglementation, les chaînes de production, l'industrie, etc., s'adaptent, fait baisser les prix. Ouais. Donc, on arrivera à produire du 100% électrique. En revanche, la question, elle est, le neuf, c'est 1% de la production du parc.
Bah oui, bien sûr.
1% du parc, pardon. Mais qu'est-ce qu'on fait
de
tout le reste? Et là, tout le reste, les signaux sont pas bons. Parce que le seul vrai signal, enfin, le seul outil qui a la main sur le marché, c'est le DPE.
C'est le diagnostic de performance énergétique.
Pardon. Qui a un impact sur la valeur locative, sur la valeur vénale, sur des aides fiscales, etc., etc. Et en fait, ce DPE, bon, ça change tous les 6 mois, plus personne n'y comprend rien. On vient de faire passer 700 000 logements de la passoire à plus passoire, alors qu'on n'a pas fait de travaux. Ouais. Et ça déconcerte et ça n'engage pas le chemin de l'électrification massive du parc existant.
Je pense que les 700 000 logements, ça a été aussi un signal que les pouvoirs publics ont bien compris qu'on pouvait pas supprimer comme ça autant de logements du marché sans réponse pour les gens qui y habitaient. Et donc, je pense que d'une manière générale, on est re-rentré dans une période où, avec difficulté, avec apprêté probablement, mais on va avoir à nouveau une sphère publique qui va être plus attentive
plus pragmatique
pour la production de logements. Mais il y a un autre sujet, l'électricité c'est un sujet, mais on parle régulièrement de simplifier. Quand on regarde ce qui se passe réellement, on en est encore très 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 loin. Depuis 20 ans, on a un mouvement global qui a été vers des parkings à vélo, et c'est logique, c'est une tendance de fond. Les communes s'adaptent, les immeubles s'adaptent, les gens vivent désormais comme ça, mais on fait toujours autant de parkings enterrés pour autant de voitures qu'avant. C'est-à-dire, pour l'instant, on coule plus de béton pour avoir... Est-ce qu'il faut pour la voiture? Est-ce qu'il faut pour les vélos? Il y a un moment, il faut quand même tirer les conclusions et se dire, effectivement, on va peut-être faire moins de parking pour les voitures dans les logements. Donc voilà, le champ, si on veut vraiment avancer et simplifier, on a plein d'idées et plein de choses concrètes et adaptées à l'époque.
Et si vous voulez un bon DPE, vous achetez dans le neuf quand même. Je voulais conclure là-dessus pour vous permettre de faire votre promo, mais vous ne voulez pas. Alors,
Bien sûr, acheter dans le neuf, c'est notre métier.
C'est quoi le pire du DPE que je peux obtenir si j'achète un logement neuf? C'est B, c'est ça, à peu près?
Oh, ça, il va falloir s'y employer.
Ah, ils ne sont pas d'accord?
Non, B, c'est déjà performant.
Ah ouais?
Ouais.
Même là, j'ai essayé de vous soutenir, vous n'y arrivez pas. Bon, en tout cas, j'aurais pas du F ou du G et a priori, je serais sur un logement performant et j'aurais des petits prêts aidés de la part de nos amis banquiers et le prêt à taux zéro de l'État. Donc, ça peut valoir le coup quand même d'acheter du neuf aujourd'hui.
Ah, totalement.
Voilà, quand même un petit mot de promo pour Promogym, justement, François Payel, directeur général délégué de Promogym, et Mathias Navarro pour Redman. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi pour parler de ce secteur de la promotion immobilière. Oui, il y a des défis à relever, mais on construit encore. Eh bien, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend. Tout ça. Merci à tous les deux. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode des Experts de l'Immo sur BFM Business.
Les Experts de l'Immo sur BFM Business.